Être 18h à Niamey, bienvenue au journal en français du studio Kalangou dans une présentation de Rafika Taher. À la une, aujourd'hui 15 janvier 2021, réouverture hier des frontières terrestres avec le Nigeria. Au niveau de Maradi, selon le syndicat des transporteurs de l'axe Maradi-Nigeria, le trajet est sans problème. À la demande de Mahamat Ousmane, candidat au deuxième tour de la présidentielle au Niger, l'Alliance des candidats pour le changement ACC se sont rencontrés pour un éventuel ralliement pour le scrutin prochain. Les détails à suivre dans un instant. Et dans la partie magazine, nous parlerons du musée des instruments de musique traditionnelle du CFPM Taya de Niamey, dont le toit s'est effondré suite aux fortes pluies il y a de cela quelques mois. Situation heureuse à Maradi. Les autorités nigériennes ont annoncé hier la réouverture de toutes les frontières terrestres. Celle entre Nahissa, à une trentaine de kilomètres de la ville de Magama au Nigeria, est effectivement ouverte ce matin, a déclaré El Hadj Seydou Garba, le président du syndicat des transporteurs Maradi Nigeria, à Dalchi. Il est au micro de Mohamed Maman.
La route est ouverte. Personne ne m'a appelé pour me dire qu'on lui a refusé de rentrer. Pour le moment, tout marche à merveille. Ça veut dire que la route est ouverte. La fermeture de la frontière, là, tout le monde a souffert. Le chauffeur, le Nigeria même a souffert parce que c'est la seule route où les activités marchent. Le commerce, tout le monde sait que c'est le Nigeria et le Niger que le commerce là est florissant. Ah, un ouf de soulagement pour tout le monde, même pour la population de Maradi et pour la population du Nigeria. Tout le monde est satisfait, on est content, on souhaite que ça continue comme ça.
Cette année, la montée des eaux du fleuve Niger suite à la crue guinéenne a occasionné des dégâts importants sur les rizières de Saga de l'arrondissement communal Niamey 4. Les riziculteurs ont presque tout perdu, semences et semis, explique Sidikou Moussa, le président de la coopérative de Saga. Toutefois, ils ont reçu des appuis en semences et engrais auprès de l'État et de la FUCOPRI, une organisation paysanne spécialisée sur la filière de riz.
Cela a causé beaucoup de dégâts dans les rizières, en dehors même de la ville. C'est une inondation qui a enseveli toutes les rizières jusqu'à submerger le goudron. Tout ce qui est semis, engrais et autres ont été emportés par les eaux. Et c'est de nombreuses parcelles. À l'heure actuelle, c'est seulement les sites en amont là-bas où l'eau s'est retirée. Mais tout ce qui est en aval, l'eau est toujours là. Nous espérons que d'ici le mois de février, l'eau va se retirer. Le service de l'agriculture nous a appuyés avec 10 tonnes de semences de riz. La COPRI nous a fait un appui en engrais. Ils nous ont aussi promis des semences. Le premier lot est déjà dans le magasin. Nous allons voir comment nous allons reprendre la remise des semis. Mais comme nous avons déjà procédé aux semis, nous allons réserver le stock pour la prochaine campagne.
C'était les propos recueillis par Zainabou Abdou. L'Alliance des candidats pour le changement a rencontré hier à Niamey Mahamat Ousmane, l'un des deux candidats au second tour de l'élection présidentielle prévue le 21 février prochain. Selon Abdrahmane Oumarou, membre de l'ACC, il s'agit d'un exercice qui permettra à leur coalition de choisir le candidat qu'elle va soutenir lors de ce scrutin présidentiel. Il est joint au téléphone par Assoumane Achina.
Nous avons rencontré le président Ousmane. C'était à sa demande, c'est important de le souligner. Il nous a exposé son programme, sa vision, ses ambitions pour ce pays. L'objectif, c'était d'écouter les candidats. Donc, pour nous, c'est un exercice de voir parmi les candidats qui peut vraiment résoudre les aspirations des populations, qui peut faire en sorte que notre pays soit vraiment au rendez-vous des grandes nations et qui peut faire en sorte que les engagements qui seront pris seront vraiment respectés. Nous avons écouté le président Ousmane, donc nous attendons voir aussi si le second candidat aussi sera intéressé à vouloir notre soutien ou pas. Si nous avons donc un contact avec lui, nous allons aussi l'écouter dans les mêmes conditions. Et en ce moment, nous allons donc faire communiquer pour informer la presse. qui sera donc le candidat de l'Alliance des candidats pour le changement pour ce second tour.
À Zender, une réunion s'est tenue hier jeudi entre les autorités de la région et les différentes couches socio-professionnelles de la ville avec pour objectif d'attirer l'attention sur l'utilisation abusive du Coran par certains groupes lors des derniers scrutins, raison pour laquelle des dispositions ont été prises afin d'interdire cette pratique. Les détails avec Cheibou Moussa, procureur pré-tribunal de Zender, au micro de notre correspondant Ali Keïta.
Seul le sultan a le pouvoir d'ordonner pour défaire le Coran à un individu. Celui qui ne passe pas par le sultan, qui préfère aller dans la rue pour le faire ou dans les bureaux de vote, il se met en violation de la loi pénale. Pour nous, il s'agit purement et simplement des voies de fait qui sont prévues et réprimées par les dispositions de l'article 222 du Code pénal. Et tout celui qui sera pris en posant des actes de cette nature, il sera traité conformément à la loi. Le plus important, c'est de maintenir la paix publique. Lorsque on s'entend, les gens ont reconnu qu'ils ont voté et qu'ils s'engagent à ne plus commettre, il n'y a aucune difficulté à accepter ces excuses. Et ce qui ne sera pas toléré, c'est que des individus qui tenteront de reprendre ce genre d'actes, ils auront à faire face à la loi.
Ces dernières semaines, un nombre important de contaminations et de décès liés à la COVID-19 est enregistré dans la région de Zender. Le directeur régional de la santé publique fait le point de la situation et appelle au respect des mesures prises pour lutter contre la maladie. C'était lors d'une rencontre hier avec les acteurs politiques et les leaders coutumiers. Docteur Abdou Yahaya au micro de Mustapha Mamansani.
Cette maladie est revenue en force si nous comparons le nombre de personnes atteintes et qui sont décédées au cours de la première vague à l'espace de 6 mois. Nous avons enregistré 140 personnes atteintes avec 20 décès. Et avec cette deuxième vague, pour la période d'un mois, 33 personnes sont atteintes avec 4 décès. Si vous faites la sommation, la deuxième vague a été plus dévastatrice. Les savants ont signifié que le virus a changé. Voilà pourquoi elle est compliquée. La seule voie salutaire pour nous, c'est de respecter les mesures barrières que chacun de nous doit adapter. Le gouvernement a édicté des mesures barrières à prendre et de respecter, notamment le port de la bavette, le lavage systématique des mains. Toutefois que nous respectons ces mesures, nous y arriverons à booster cette maladie de notre pays. À l'heure actuelle, nous n'avons pas encore les moyens de faire la vaccination.
Pour détecter l'âge des sportifs, la méthode la plus fiable est l'IRM, imagerie par résonance magnétique, a indiqué Dr Hama Idrissa, cardiologue et médecin de sport. Selon lui, c'est la technique qui a été utilisée lors du championnat U17 UFOA Bar B et qui a entraîné la disqualification de l'équipe togolaise suite à la détection d'un joueur âgé de plus de 17 ans. Dr Hama Idrissa est joint au téléphone par Tarnal Foudey Ahmed.
Pour détecter l'âge osseux, la méthode la plus fiable est de faire l'IRM du poignet. Et l'IRM du poignet, ça permet de déterminer l'âge osseux par l'analyse du cartilage de conjonction de la fibre radiale inférieure. Donc, c'est un examen qui permet de voir la croissance de l'os de l'enfant. Et à l'issue de cet examen-là, on conclut à 5 stades d'évolution du cartilage. Et aussi, même les 5 stades sont valables pour les jeunes joueurs, ceux qui ont reçu les 5 stades encore éligibles pour jouer la compétition, alors que le 6e stade est un stade où il y a déjà une consolidation du cartilage de conjonction. Et ça permet d'éliminer les joueurs chez qui on a trouvé cette consolidation. Et cette consolidation veut dire que l'enfant a dépassé les 17 ans parce qu'on suppose que le cartilage de conjonction se consolide de là où supérieur ou égal au moins à 17 ans. Donc d'où la nécessité de faire cet examen et de ces examens qu'on a détecté au moins un des joueurs togolais qui a fait qu'on a éliminé l'équipe togolaise la dernière fois au cours de la compétition.
Plusieurs centres d'alphabétisation ont vu le jour au Niger pour former ou perfectionner les compétences d'alphabétisation tout au long de la vie. Le département de Gaïa, de la région de Dosso, en compte 8. Ils viennent en aide notamment aux jeunes déscolarisés, mais aussi aux adultes qui souhaitent apprendre, explique Zainab Outondo, agent du service d'alphabétisation de Gaïa. Elle est au micro de Fadel Alou.
Nous disposons de 8 centres d'alphabétisation financés par la mission catholique dans la commune de Gaïa. Nous apprenons à lire, à écrire et à calculer dans les langues maternelles. Nos cibles sont les adultes, les jeunes non scolarisés et déscolarisés. Et par rapport à nos attributions, donc nous suivons régulièrement les centres d'alphabétisation pour voir l'évolution des enseignements. En tout cas, les gens ignorent le service de l'alphabétisation. Il y a la réticence aussi des gens à s'alphabétiser en langue. Il y a aussi l'irrégularité des apprenants. L'État aussi n'accorde pas une grande importance à l'alphabétisation, sachant pertinemment que l'alphabétisation est le moteur du développement et surtout que la majorité de la population est analphabète. Et on ne peut pas vraiment se développer dans l'ignorance.
Le directeur de l'école primaire de Bulundjunga 1 dans le département de Gotey, région de Tillabéri, a été enlevé dans son école par des individus armés non identifiés de la nuit du mardi au mercredi. Selon une source sûre du village, après avoir passé une nuit entre les mains de ses ravisseurs, Sadou Hamadou a été ramené par ceux-ci à son domicile.
Hey Issa, cette histoire de Covid-19 me rend malade. J'ai peur, je me sens mal tout le temps et sans te mentir, j'ai peur de tout le monde. Je ne fais que lire les infos sur cette maladie sur les réseaux sociaux.
C'est normal d'avoir peur. Depuis le début de cette pandémie, je t'ai souvent répété de faire attention à tout ce que tu lis sur les réseaux sociaux. Ce sont des fausses informations pour la plupart.
Mais que dois-je faire? Où aller alors pour me tenir informé?
Informe-toi sur le site officiel de l'Organisation mondiale pour la santé et les plateformes d'information des autorités de santé du Niger. La connaissance des faits peut t'aider à réduire la peur.
Cette fois-ci, je tâcherai de suivre tes conseils. Je me rends compte qu'il y a tellement d'informations et de fausses rumeurs qu'il faudrait qu'on lutte contre la désinformation. En effet, à cause de la peur, je dors moins et je suis tout le temps fatiguée.
Une dernière chose. Pense à tout ce que tu as vécu de positif dans la journée. Et prends la vie du bon côté. Focalise toute ton énergie à sensibiliser les gens sur les mesures préventives à respecter. Rappelle aux gens que la maladie existe toujours et que l'assouplissement de certaines mesures prises par l'État ne doit pas rimer avec le lâchement des gestes barrières.
D'accord, merci Issa.
Ceci est un message du studio Kalangou en collaboration avec le ministère de la Santé publique du Niger.
Place à la partie magazine de ce journal. Le poids des fortes pluies en 2020 a causé l'effondrement du toit du musée des instruments de musique traditionnelle du Centre de formation et de promotion musicale CFPM Taya de Niamey. Ce conservatoire abritait plus de 300 instruments provenant de toutes les régions et appartenant à toutes les ethnies du Niger. Après avoir mis ces derniers à l'abri, Garba Mohamed Lawali, directeur de ce centre, fait le point de la situation au micro de Rabia Mekano.
Les musées d'instruments traditionnels a eu un coup avec l'abondance des pluies cette année. Vous savez, les musées, c'est un musée qui est construit en banco. Et les toits, c'est en banco sans bois. Avec l'abondance des pluies, certaines arcades ont cédé et c'est ce qui a endommagé une certaine partie du toit.
Que sont devenus ces instruments aujourd'hui? Sont-ils exploitables?
Avant cela, nous avons pris des dispositions. Quand nous avons constaté qu'il y a des menaces, nous avons sécurisé tout ce qu'il y a comme instrument traditionnel, tout ce qu'il y a comme documentation, nous avons tout sécurisé. Pour ce qui est d'exploitation, vous savez, les instruments sont classés en famille. Il y a les membranophones, les cordophones, les idophones et les aérophones. Et la documentation, il y a une documentation audiovisuelle, il y a une documentation écrite, il y a une documentation discographique, tout ça là. Donc on n'a pas d'espace approprié pour l'exploitation. Nous avons sécurisé ces fonds documentaires, ces fonds muséaux par famille et par secteur. Et la sécurisation, là où nous avons mis, ça ne permet pas l'accès pour une exploitation.
Mais est-ce que des travaux de réhabilitation sont entrepris à ce jour?
Le ministère en charge de la culture a commandé une étude auprès des techniciens de Sambois. Ils nous ont remis l'étude. Dans l'étude, ils ont dit que les murs du bâtiment n'est pas endommagé. Il y a que la partie du toit qui s'est effondrée qu'on peut colmater. Et le ministère de tutelle a dit non, il n'y a pas de colmatage à faire. Ils préfèrent qu'on reprenne l'ensemble du toit. C'est plus sécurisant. Et c'est ce qui a été fait. Ils ont proposé une étude où il y a un devis avec un plan pour la reprise du toit. Et le ministère s'active pour la reprise de ce toit-là et remettre les instruments et la documentation dans le musée.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Studio
Kalangou. Suivez les programmes du Studio Kalangou à Dosso sur la radio FRA
92 MHz,
à Birningaouri sur la radio Marhaba
95.1 MHz,
à Doganduchi sur la radio Dalol
92.8 MHz,
à Maradi sur la radio Garkwa
107 MHz,
à Mayayi sur la radio Anouri
99 MHz,
à Dakoro sur la radio Mouriette Dakoro
99 MHz.
Studio Kalangou.